c'est à votre avis qui commence, Eric Manilakidza avec vous. Ce soir, nous revenons sur le décès de M. Kofi Annan, qui était le 7e secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Il a été le premier à sortir des rangs du personnel. Il a entamé son premier mandat le 1er janvier 1997. Le 29 juin 2001, sur recommandation du Conseil de sécurité, l'Assemblée nationale l'a réélu par acclamation pour un second mandat. Et ainsi, il a commencé le 1er janvier 2002 et l'a achevé le 31 décembre 2006. Le 23 février 2012, M. Annan a été nommé envoyé spécial conjoint ONU Ligue des États arabes pour la crise syrienne. Et le 10 décembre 2001, M. Kofi Annan a reçu le prix Nobel de la paix. Il s'est éteint le 18 dernier à l'âge de 80 ans. Je suis en ligne avec Monsieur Amara Essi, l'ancien ministre ivoirien des Affaires étrangères. Il est à Abidjan. C'était son ami personnel. Il le connaissait très bien. Monsieur Amara Essi, bonsoir et bienvenue dans cette émission.
Oui, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Nous irons également à Ouagadougou où nous allons retrouver Monsieur Ismaël Diallo, qui a été le représentant du haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, c'était au Burundi. Et je pense que vous vous connaissez, Monsieur Diallo. Bonsoir.
Bonsoir. La présence de mon frère et ami Amara me disqualifie d'être dans ce débat. Il connaît Kofi Annan beaucoup mieux que moi. Je n'aurai rien à ajouter dans ce qu'il dira.
Merci. Monsieur Amara, ici, qu'est-ce que vous gardez personnellement de Monsieur Kofi Annan qui nous a quittés?
C'est que Monsieur Diallo, je savais pas que Monsieur Diallo était à Ouagadougou, parce que Monsieur Diallo et Kofi Annan, nous avons tous les trois été à l'Institut de Haute Études Internationales à Genève ensemble.
Voilà.
Alors donc, on se connaît tous très bien. Tout ce que Monsieur Diallo dira, je vais l'approuver aussi parce qu'on est tous les deux très amis à M. Kofi Annan. On s'est connus à Genève, à l'Institut de Haute Études Internationales. Donc, on s'est fréquentés. Je crois que ce que je retiens de lui, c'est que vraiment, il est fidèle en amitié. Il est fidèle en amitié. Je crois qu'on a toujours déjeuné avec lui en privé à New York. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est très ouvert. C'est quelqu'un qui a un attachement sans borne pour son continent d'Afrique. Et quand j'ai été élu secrétaire général de l'OUA, et avant de mettre en place les structures, je suis allé voir pour dire, écoute, Kofi, j'ai une tâche, mais ce n'est pas ma tâche. C'est la tâche de tous les Africains qui ont une expérience des relations internationales, comme toi. Et je voudrais qu'ensemble, on réfléchisse comment on va transférer l'OUA en Union africaine, capable de rivaliser avec toutes les grandes institutions internationales. Donc c'est ainsi que on a eu à collaborer pour tous les tests qui ont été faits pour que naisse l'Union africaine. En tout cas, il a beaucoup contribué à cette réflexion et surtout le résultat est là aujourd'hui. Nous avons une institution qui est capable aujourd'hui de figurer en bonne place dans le combat international. Donc voilà ce que je peux dire.
Et c'est quelqu'un qui a eu une carrière exceptionnelle.
Oui, parce que, vous savez, ce que on ne dit pas assez, c'est que il avait quitté le Ghana à la suite du coup d'État au Ghana qui avait renversé Nkrumah. Et donc, c'est quelqu'un qui avait une fibre politique. Mais je crois qu'il a été beaucoup traumatisé par la chute de Nkrumah. Et donc, il est parti en Europe. Il a fait beaucoup d'études un peu partout, comme vous savez. Il a été aux États-Unis, ensuite il a été à Genève. Donc, en fin de compte, il a une approche pluridisciplinaire de toutes les questions qu'il traite. Et donc, vraiment, c'est quelqu'un qui est d'exceptionnel.
Gardez la ligne, monsieur Essi. Monsieur Diallo, vous avez été ensemble à Genève. Je ne voudrais pas revenir sur cette séquence de Genève, mais vous êtes un militant des droits de l'homme. Que gardez-vous de lui à la tête des Nations Unies sur le plan des droits de l'homme?
Oh oui,
dans le temps que j'ai fait aux Nations Unies, moins longtemps que ce fils, Panam, j'ai accueilli aux droits de l'homme et à d'autres domaines comme la gouvernance, la justice, etc. Bon, mais ceci dit, dans la fréquentation de cet homme, on est frappé par son désir constant d'aller à la solution de ces problèmes. Il ne se satisfaisait pas de « on verra » ou bien « on ne peut pas » ou bien « ceci est impossible ». Il fallait toujours, par le dialogue, par la concertation, pousser toujours plus loin une question pour arriver à une solution et à un compromis dynamique, à un compromis positif. Et Amara et Steve vous en dira beaucoup plus sur tout ce qu'ils ont fait ensemble sur ces questions, non seulement africaines, mais internationales, quand lui-même était Amara et était président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Bon. Donc, ça. Mais aussi, la pondération de Kofi Annan était extraordinaire. Ce n'est pas de la réserve, mais c'est des doses de timidité, des doses de retenue, des doses de bienséance. Tout cela fait ensemble que c'était un homme attachant et complexe en même temps.
Restez avec nous, Monsieur Diallo et Monsieur Mara Essi. Nous avons un auditeur en ligne, c'est Pablo. Bonsoir. Pablo. Je pense qu'il y a un problème de connexion avec Pablo. Pablo, vous nous entendez? Il y a un problème. Monsieur Amara, et si je me retourne vers vous, comment Kofi Annan devient secrétaire général des Nations Unies? Ses ambitions, est-ce que vous en avez parlé avant?
Mais écoutez, vous savez, on a eu un parcours assez similaire, puisque moi-même, j'étais président de l'Assemblée générale des Nations Unies. J'étais président de l'Assemblée générale, la 41e session de l'Assemblée générale. Mais disons que on faisait des analyses souvent, puisque moi, j'étais d'abord ambassadeur, lui, était au secrétariat. Et donc, on faisait des analyses sur la marche des Nations Unies. Moi, vu du côté des ambassadeurs, lui, vu du côté du personnel des Nations Unies. Donc, c'était un débat, disons, d'information réciproque. Moi, ça me servait, lui, ça lui servait aussi. Donc, en fin de compte, je crois qu'on était complémentaires dans les analyses qu'on faisait. Chacun savait à peu près, dans son groupe, quel était le problème et comment on pouvait harmoniser nos points de vue. Bon, moi-même, je l'ai aidé pendant un moment quand il était au DPKO, c'est-à-dire le
secrétaire général adjoint.
Adjoint, bon, parce que quand ils avaient des réformes quelquefois très difficiles, bon, ils me les envoyaient pour que je les passe par une résolution, en concertation avec les Africains, parce que quelquefois on s'est dit, bon, c'est un Africain, il faut l'aider absolument, parce que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'Afrique. Et il était très attaché à l'Afrique. Et bon, et un aspect que les gens ne voient pas, c'est que quand il était secrétaire général, il avait un souci préoccupant, c'était le continent africain. Il était meurtri quand il y a eu l'affaire du Rwanda. Et parce qu'en tant qu'Africain, son ambition, c'est que vraiment, en tant que secrétaire général, que vraiment l'Afrique n'ait pas de problème.
Et il a été beaucoup critiqué sur le Rwanda, justement.
Oui, il a été critiqué parce qu'en fin de compte, comme vous savez, c'est le bouc émissaire parce que le Conseil de sécurité est là. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que le secrétaire général des Nations Unies, il est l'otage des 5 membres permanents. Et donc, il ne fait pas ce qu'il veut. Il a beau faire des convergences parallèles, comme on dit souvent en Italie, mais ce n'était pas aussi aisé. Mais c'est quelqu'un qui a été vraiment frustré et traumatisé parce qu'il voyait des solutions et il ne pouvait pas avoir des résolutions du Conseil de sécurité. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire. Mais comme disait Diallo, je crois que c'est quelqu'un vraiment d'humain il est humain. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu les deux aspects, les deux Africains, Boutros Ghali et Kofi Annan. Moi, j'étais président de l'Assemblée générale sous la 41e session. Boutros était secrétaire général des Nations Unies. J'ai vu les problèmes qui ont été créés avec Boutros Ghali par son tempérament, par son caractère. Mais je crois que les Nations Unies n'ont jamais connu une période aussi difficile à gérer qu'avec Kofi Annan. Bon, c'était le pharaon, comme on l'appelait le pharaon. Bon, à son départ, Kofi a dû remettre tout en ordre et ça n'a pas été facile parce qu'il y avait beaucoup de frustration, surtout du côté des Américains qui étaient quand même le premier bailleur des Nations Unies parce que les États-Unis payaient 25% du budget des Nations Unies. Or, une fois qu'ils mettent le veto sur un texte, tout était paralysé. Et donc, il s'est retrouvé dans une situation très difficile à recoller les morceaux cassés. Donc, ça a été... Bon, il avait deux atouts. D'une part, il rassurait tout le monde. Et deuxièmement, ayant fait son parcours dans le système des Nations Unies, ayant géré surtout le personnel, parce qu'en définitive, il faut avoir le personnel avec soi, il a réussi d'abord à calmer le personnel. Ensuite, il a réussi aussi à avoir la sympathie des autres membres permanents, des autres membres permanents et surtout des non-permanents. Et du côté des groupes africains, on a beaucoup compris que, bon, qu'en fin de compte, son succès, c'était d'autres succès. Donc, il fait que, bon, il a fédéré autour de lui, je crois, un ensemble, disons, de personnes et même de groupes de personnes pour que vraiment il puisse avancer. Je crois que vraiment il a. C'est là le côté diplomatique, parce qu'on oublie qu'il a sur un secteur financier, mais du côté diplomatique, il a réussi aussi à faire un rassemblement, même si c'était hétérogène, mais quand même, qui fait qu'il a créé un bloc solide autour de lui. Et ça lui a permis, je crois, d'avancer sereinement. Il a amené la sérénité dans le système, au sein des organes, et qui fait que les choses ont débarré d'une façon plus douce, et ce qui l'a amené à faire toutes les réformes qu'il a pu faire. Et surtout pour l'Afrique, on ne le voit pas souvent parce qu'il y a eu un rapport très important sur les causes des conflits en Afrique. Les causes dues aux legs du passé, les causes dues à la colonisation et les causes dues aux problèmes intérieurs des États membres. Et c'est un domaine qui a été bien travaillé. Et si vraiment on avait les États africains et même les chefs d'État avaient pris en considération toutes les remarques qui avaient été faites dans ce rapport de Kofi Annan, je crois qu'on aurait évité beaucoup, beaucoup de conflits aujourd'hui.
Restez avec nous, messieurs Amara. Et si nous avons un auditeur en ligne, Bakary, bonsoir.
Ah.
Nous vous écoutons, Bakary.
Je suis à Bamako.
Oui, Bakary.
Oui.
Selon vous, quel est l'héritage que vous voyez de Kofi Annan?
Bon, c'est vraiment un héritage immense. Revenons d'abord à l'homme. Vraiment, octogénaire Kofi Annan, quand même, nous a quitté vraiment les larmes aux yeux. C'est un grand monsieur vraiment pour l'Afrique. Ouais, c'est une première fois que l'Afrique dirige quand même l'ONU avec Kofi Annan. Quand même, nous reconnaissons vraiment fièrement quand même de cela. La preuve en est qu'il a quand même obtenu vraiment un deuxième mandat. Et cela n'est pas donné à n'importe quel secrétaire général. Aussi, Kofi Annan vraiment a gravi vraiment tous les échelons. Il a fait quand même un parcours honorable aussi à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé. Ensuite, c'est cela qui a valu quand même son arrivée à l'ONU. Aussi, ce qu'il faut noter aussi qui est très important, il a obtenu, je crois, si ma mémoire est bonne, un prix Nobel vraiment en 2001. Je crois que tout cela montre vraiment l'humilité quand même de l'homme. Et tous les Africains quand même sont fiers vraiment de son parcours. Et pour terminer, je me réfère à Birago Diop qui disait que les morts ne sont pas morts. Donc Kofi Annan vraiment restera gravé à la mémoire de nous, les Africains, et de l'humanité tout entière.
Merci Bakary pour votre témoignage. Nous avons Mahamadou Traoré, le bilinguiste. Bonsoir.
Monsieur le bilinguiste, bonsoir monsieur, bonsoir à tous les invités.
Vous avez la parole.
Bien, donc, je disais sur la page Facebook que le monde vient de connaître vraiment une très grande perte. Qui parle de Kofi Annan parle d'un grand homme qui a servi non seulement sa patrie, mais aussi sa communauté son continent et tout le monde. Et il a dirigé les Nations Unies, donc c'est un grand homme qui part. Son souvenir reste vraiment, nous restons inconsolables face à ce qu'il a fait. Donc je ne pense pas, mais seul l'avenir me dira. Sinon, je ne pense pas que l'ONU aura un monsieur comme Kofi Annan qui avait du charisme vraiment dans la gestion des affaires publiques et des affaires du monde entier.
Merci Mamadou pour votre contribution. Nous avons Brahima Doumbia, bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous.
Nous vous écoutons.
La perte de Kofi Annan est une perte très immense. Je pense que c'est quelqu'un qui a su faire ce qu'il devait faire. Et comme il a si bien dit, son plus grand regret, c'est surtout la crise irakienne. Mais je pense qu'il n'avait pas cette possibilité d'arrêter ou de stopper à temps cette crise. Sinon, il allait le faire. Sinon, quand on regarde son parcours, je pense que c'est quelqu'un qui a œuvré pour la paix, qui a tout fait de mon point de vue. C'est vrai, c'est le deuxième Africain à diriger les Nations Unies. Cela est une fierté surtout pour le peuple africain et en particulier le peuple ghanéen, je dirais, puisque c'est un ghanéen en quelque sorte. Je pense que quand même, on aura aussi d'autres dirigeants africains encore qui vont diriger l'ONU, pourquoi pas, et qui seront très très calmes et très compétitifs et très sérieux et qui vont aussi booster, je dirais, encore l'image de l'Afrique, puisque c'est quelqu'un quand même qui a œuvré et qui militait surtout pour la cause de tout le monde, mais en particulier aussi pour les Africains.
Merci Brahima pour votre témoignage. Avant de revenir à nos invités, je voudrais ajouter qu'en avril 2000, M. Kofi Annan a publié son rapport sur le millénaire intitulé « Nous les peuples, le rôle des Nations Unies au 21e siècle » dans lequel il invite les États membres à s'engager en faveur d'un plan d'action pour l'élimination de la pauvreté et de l'inégalité, l'amélioration de l'éducation, la réduction du VIH-Sida, la préservation de l'environnement et la protection des peuples contre les conflits et la violence. C'est de ce rapport que s'inspire la déclaration du millénaire adoptée par les chefs d'État et de gouvernement au sommet du millénaire qui s'est tenu en septembre 2000 au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. En avril 2001, M. Kofi Annan a publié un appel à l'action en 5 points pour venir à bout de l'épidémie d'infection par le VIH et de sida, ce qu'il décrit comme une priorité personnelle, et a proposé la création d'un fonds mondial sida et santé par lequel transiterait une partie des ressources nécessaires pour aider les pays en développement à surmonter la crise. Monsieur Ismaël Diallo, vous nous entendez?
Oui.
Il y a eu la responsabilité de protéger, une grande avancée en matière de lutte contre l'impunité et de faire respecter les droits de l'homme.
Oui, ça c'était une leçon de, vous vous rappelez bien, du génocide au Rwanda. Et Kofi Annan lui-même a eu la défense et l'honnêteté de dire qu'il a pensé qu'au moment des faits, lui et d'autres ont pensé qu'ils avaient fait ce qu'ils pouvaient faire, mais plus tard il s'est rendu compte qu'ils auraient pu faire mieux. Donc tout ce qu'il a fait par la suite était... une anxiété d'être au plus près de la résolution des problèmes que connaissent les peuples à travers le monde. Nous connaissons les rencontres qui se font tous les jours à travers le monde, aux Nations Unies et dans différentes organisations. Et nous connaissons également le peu de résultats concrets que l'on va sortir de ces rencontres. Ça a été une sorte de hantise pour Kofi Annan, qui a cherché vraiment à trouver des solutions, non seulement tangibles, mais concrètes, à tous ces problèmes-là. D'où tous ces documents, toutes ces rencontres et tous ces documents qui ont été faits. Et je pense que chaque jour après, il a voulu trouver vraiment des solutions aux problèmes, plutôt que d'en parler, tout simplement.
Nous avons Diarra Kanyoumé en ligne. Diarra Kanyoumé, bonsoir.
Oui, bonsoir Rick, bonsoir à toute la rédaction, précisément toujours dans mon village natal.
Je vous écoute, Diarra Kanyoumé.
Ok, merci Rick, à mon avis je pense que vraiment mon condoléance à cet homme, c'est un arbre qui est tombé pour tous les Africains, donc à mon avis je pense que vraiment il était aimé dans son travail, il était favorisé par rapport à son travail. Donc je pense que vraiment s'il est décédé, vraiment c'est un grand tombe qui est, c'est un grand arbre qui est tombé pour tous les Africains. Donc à mon avis, je pense que est-ce que on peut trouver un homme encore comme lui. Par exemple, il faut imaginer comme Nelson Mandela, jusqu'à aujourd'hui, son histoire est là. Donc ça, c'est une histoire inoubliable, à mon avis. Je pense que vraiment tous les gens, les dirigeants africains doivent faire la même chose comme Kofi Annan. Donc si on a remplacé lui, je pense que vraiment, est-ce que lui peut au moins travailler comme Kofi Annan, à mon avis.
Merci à Diarra Kanyomé pour votre mot sur Monsieur Kofi Annan qui nous a quittés. Nous avons Steve Boko. Bonsoir.
Oui, bonsoir Monsieur le journaliste.
Vous avez la parole.
Ah ok, je vois que c'était un baobab qui est tombé en Afrique. Hein. Allô.
Je vous écoute.
Ok, c'est un baobab qui est tombé en Afrique, mais vu sa carrure. Son parcours qu'il a eu à faire même dans l'Afrique, il a vu que vraiment, on doit même créer un stade spécial pour instaurer son nom, pour immortaliser son nom. Oui, parce que ce monsieur, il a beaucoup fait pour l'Afrique. Suite aussi à cela, pour ne pas trop se contenter ou rester dans le même cadre que mes confidents précédents, je dirais tout simplement que vraiment, depuis qu'il a eu à gouverner l'ONU, si, je pense très bien que nous, surtout moi qui suis là, je n'ai pas encore vu les retombées fiables de cette structure. Jusqu'actuellement, nous ne voyons pas l'utilité de cette structure sur le continent. Au contraire, c'est eux-mêmes qui envenime la situation post-électorale de nos divers États. Donc, allô?
Je vous écoute.
Ok, donc il doit falloir que les autres chefs d'État ou les dirigeants africains doivent s'asseoir pour prendre autre décision pour pouvoir dissoudre cette organisation en vue de pouvoir
réorganiser. Steve Boko, oui? Merci. Je pense que M. Amara ici pourra dire un mot. M. Amara ici, il y a le temps qui presse. Mais comment Kofi Annan parvient-il à faire adopter la responsabilité de protéger? Ça n'a pas été facile.
Oui, mais je crois que Kofi Annan, par son tempérament, rassure. Il rassure parce que je crois que Oufo Boigny disait que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Je crois qu'il avait un comportement qui rassurait. Parce que, bon, moi, j'ai suivi un peu ses angoisses devant tout ce conflit où vraiment il a dû passer des nuits au téléphone avec le décalage horaire. Il a dû envoyer des missions pour convaincre les gens, et je crois que ça a été un travail de titan, tout ce qu'il a fait. Non, et puis aussi, je crois qu'il y a quelque chose que j'aimerais dire, parce qu'on parle des questions de la femme, mais je crois qu'il a vraiment amélioré la condition de la femme au secrétariat des Nations Unies. Ça, je crois que les femmes lui doivent beaucoup. Et je crois aussi qu'il y a un aspect qu'on oublie, c'est qu'il a créé ce qu'on appelle le pacte mondial en direction des grandes entreprises associé avec le système des Nations Unies. Je crois que tout ça, ce sont des mesures innovatrices qui ont fait vraiment qu'il a pu réussir. Donc, vraiment, je crois que si on veut parler sur tous ces points, vraiment, on va rester toute la journée au téléphone parce que son œuvre est immense, immense, et je crois que c'est quelqu'un qui est discret. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec sincérité, avec conviction.
Une dernière pensée, peut-être dans cette émission. Allô? Allô, Monsieur Amara ici.
Allô.
Une dernière pensée.
Mais écoute, je crois que l'Afrique a perdu un grand homme, mais de toute façon, je crois que l'Afrique a des ressources incommensurables. Aimé Césaire disait qu'il appartient à chaque génération de chercher sa mission. Après. Allô, m'entendez?
Oui, je vous entends. En 10 secondes, et après, on passe à Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, une dernière pensée? Monsieur Diallo?
Veuillez patienter, s'il vous plaît.
Nous avons un problème de connexion téléphonique. Merci à Monsieur Diallo pour sa participation, à Monsieur Amara Essi pour son témoignage vibrant. Merci à tous les auditeurs qui ont intervenu dans ce « À votre avis ». Qui était consacré sur M. Kofi Annan, qui nous a quittés le 18 dernier. À la prochaine.